Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une émission composée d'un plat du jour et d'une madeleine. La madeleine, c'est Matteo Caranta qui s'en charge. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Qui donc vous a confié sa madeleine ?
Bien, cette semaine, c'est le prodige de la guitare, Thibaut Garcia, qui nous a confié sa madeleine.
Et c'est tout à l'heure à 12h15. Et pour notre plat du jour, direction le Pays Basque pour y découvrir toutes ses saveurs. Nous sommes en compagnie de trois invités. En studio avec nous, Stéphane Jégot, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et bienvenue, vous êtes le chef de la Mijan à Paris. La Mijan, c'est la plus vieille institution basque de Paris. C'est comme ça que c'est écrit sur le fronton.
Exactement, c'est une très très vieille dame, mais qui a toute sa fraîcheur et toute sa noblesse.
Une dame un peu plus jeune avec nous également, Marie-Luce Ribaud, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef des magazines et hors-série de Sud-Ouest, dont le Sud-Ouest Gourmand, un bimestriel que vous avez créé en 2010. Et avec nous également, Pierre Oteissa. Bonjour à vous.
Oui, bonjour tout le monde. Ça va ?
Ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éleveur de porcs de race Quintoa, et ça on va en parler longuement dans cette émission. Vous êtes basé dans la vallée des Aldudes, propriétaire de plusieurs boutiques à Paris, à Bordeaux et dans le Pays Basque, les boutiques Pierre Oteissa. Alors première question à tous les trois, une question très large. Comment vous caractériseriez la cuisine basque ? Est-ce que déjà on peut parler d'une ou de deux cuisine basque. Autrement dit, est-ce que la française et l'espagnole sont les mêmes ou elles sont très différentes ? Allez, Marie-Luce Ribaud.
Alors moi, je dirais qu'elles sont très différentes. Et curieusement, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a cette chaîne des Pyrénées, mais on a vraiment une différence absolue et rien ne passe d'un côté et de l'autre, véritablement. Alors si, il y a des influences, évidemment. Mais moi, quand je vais dans le Pays basque espagnol, je ne mange pas comme dans le Pays basque français, c'est certain. Et je m'aperçois aussi que tout ce qui se fait en Espagne, par exemple, et qu'on essaie de faire en France, on n'y arrive pas, et vice-versa. Donc, je trouve ça très différent. Et je dirais que la gastronomie basque du côté français, elle est basée énormément sur des produits qui ressuscitent grâce à une folle dynamique dans ce pays basque français.
Pierre Oteissa, qu'en dites-vous ?
Oui, c'est vrai qu'on a un tout petit pays et on a beaucoup de différents, puisque c'est vrai que côté français, on a une cuisine à base de produits d'élevage et l'autre côté, je pense, c'est plus poisson, de grillade, qui, c'est vrai qu'on a la façon de cuisiner qui est différente.
Une cuisine qui est, dans les deux cas, très identitaire, parce que je crois qu'il y a ceux qui disent le nord et le sud, il y a ceux qui disent en France et en Espagne. Dans les deux cas, alors là je m'adresse à vous Stéphane Jégot, c'est une cuisine identitaire pour vous la cuisine basque ?
Oui tout à fait, c'est une cuisine identitaire. Du côté français on a cette cuisine de convivialité, cette cuisine de partage, cette cuisine de générosité. Et du côté espagnol on a ce côté plutôt pincho où là on est vraiment, non pas dans l'individualité mais dans le partage différemment. C'est qu'on est vraiment sur ce contexte où on se retrouve autour d'une table mais on est debout, on parle, on est assez expressif avec les gestes et assez expressif avec le côté détente. Et c'est vrai que le côté, moi je pense que le côté français, on est plus à se retrouver autour de la table, se poser, passer des heures. C'est un peu ce côté mijotage, ce côté gourmand. Je pense que c'est ce qui caractérise vraiment les deux cuisines. Et c'est vrai que Marie-Luce a raison, ce qu'on fait en Espagne, on a du mal à le reproduire en France parce que justement, culturellement parlant, c'est pas pareil. On a vraiment, il y en a un qui a un peu réussi, je pense qu'il a même très bien réussi, c'est M. Candebord avec ses comptoirs, qui a réussi justement à amener ce côté pincho gourmand. T'es debout, tu vas piocher à droite à gauche. Et à ma connaissance, c'est le seul qui a réellement réussi à amener cet esprit, manière basque espagnol, capitale ou pas capitale, c'est pas le problème, mais dans notre culture gastronomique.
Alors du côté basque français, si on part sur les images d'Épinal, on se dit que la cuisine basque, c'est du jambon de Bayonne, c'est de l'osso irati, c'est de la confiture de cerise noire, la piperade. nécessairement. Et puis le piment d'Espelette. Est-ce que c'est vraiment des idées reçues ou est-ce qu'il y a un fond de vrai quand même?
Non, non, tout ça, c'est exactement une base, mais c'est tellement, tellement plus riche. Voilà, vous avez le chamango qui est un plat de crosse de jambon mijoté avec justement cette fameuse piperade, mais avec les petites pommes de terre. Vous avez le hachois, vous avez, voilà, il y a le poisson, c'est le merlu. Mais justement, c'est ça. Je pense que c'est la diversité au Pays Basque qui fait cette richesse. Parce que vous avez une cuisine du littoral et vous avez une cuisine de montagne. Quand vous allez chez Père et chez Maïté à Laro, vous ne mangez pas comme chez Ramucho à Rantzayac. C'est ça justement. Mais par contre, vous allez avoir cette même noblesse de produits. Et Pierre a raison, c'est vraiment la cuisine basse basée sur des produits, basée sur des identités de personnes qui remettent vraiment cette gourmandise à table. Et ça, c'est important.
Pierre Otessa, on vante beaucoup les jambons ibériques, mais certains Français n'ont rien à leur envier. Et je pense notamment à celui que vous produisez, vous, le quintoa. Le quintoa, c'est ce porc pinoir. Alors, il est à la fois noir et blanc. Assez costaud, hein, le quintoa, c'est un montagnard dont on tire, en tous les cas dont vous tirez, un jambon très persillé. Et je crois que vous avez même sauvé la race. Parlez-nous de ce cochon quintoa, Pierre Otessa.
Oui, le porc basque, c'est une race qu'on a remise sur pied, puisqu'il restait 25 bêtes en 90. Bon, aujourd'hui, on a 8000 bêtes à peu près en élevage, on est 82 éleveurs. Et en France, avant la guerre, il y a eu 24 races rustiques. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6. Voilà. Et sur les 6, il y en a 3 qui ont une AOP, comme le porc corse, le noir de Bigorre et le quintoa, le porc basque. Une AOP et qui aujourd'hui a on a 82 éleveurs qui travaillent autour de ce porc et on est 5 salaisonniers et 25 producteurs fermiers.
Mais ça fait pas beaucoup quand même. Hein. C'est un jambon gras, c'est un jambon fin, c'est un jambon délicat, Pierre Otessa.
C'est un porc ibérique, voilà. En France, on a surtout des porcs celtiques, le porc blanc qu'on connaît. Le porc ibérique, c'est des viandes qui sont très très persillées, voilà. Et aujourd'hui, on a des produits différents, encore une fois, même si on a le même produit, la façon de le travailler est différente puisque nous, le jambon sec, il est toujours salé au sel sec et ensuite c'est la façon de le mener puisque nous, on le garde jusqu'à 6 mois dans des chambres froides et ensuite on le lâche à l'air. Voilà. Et on sait qu'au Pays Basque, bon, on a un climat, un microclimat, on a l'humidité de la mer, on a le vent du sud, ici égo à qu'on appelle, qui nous permet de sécher ce jambon naturellement. Et nous, le jambon, il reste entre la moyenne, entre 12 et 25 degrés. Voilà. Et c'est pour ça que quand on déguste ce quintoa, on a un mariage entre le gras et le maigre, et qui est différent du pata negra qu'on trouve au sud de l'Espagne, puisque eux, ils le font sécher avec des températures jusqu'à 40 degrés. Et 40 degrés, un jambon, plus on le chauffe, plus il a de goût. Par contre, il y a une différence qui se fait entre le gras et le maigre. Le maigre, plus on le chauffe, il devient, les arômes explosent, alors que le gras, il rancit un peu au-dessus de 35 degrés, le gras de porc rancit. Voilà. Et c'est la différence qu'on a dans des produits. C'est pour ça que chaque région, chaque pays a son produit, même si la matière première est ibérique, mais on arrive à faire des produits différents.
Stéphane Jégot, vous adorez le cochon?
Oui, bien sûr, ça fait partie. Bon, c'est vrai que nous, moi, je suis breton, donc on a des cochons celtiques, mais c'est vrai que le cochon fait partie de notre ADN, fait partie vraiment de notre culture. Et quand j'entends Pierre là, j'ai de l'eau à la bouche parce que c'est vrai que ce gras a pompé tous ces arômes, a pompé justement tout ce vent, cette culture qui a traversé ce jambon quelque part. Les adultes, c'est magnifique, c'est ça qui est intéressant. Et Pierre a raison de marquer cette différence. On a quelque part le même porc, mais un savoir-faire différent, une culture différente, et c'est réellement ancré et marqué dans le jambon et dans son gras. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, que le manger juste comme ça ou cuisiner avec, c'est vraiment passionnant.
Marie-Luce Ribot, quand on parle du jambon, quand on parle du gras, on ne peut pas s'empêcher de penser à un deuxième préjugé. Quand on évoque la cuisine basque, c'est le préjugé qui veut que la cuisine basque soit plutôt grasse, plutôt lourde, plutôt roborative. Est-ce que là aussi, c'est une idée reçue?
Alors moi, je trouve, parce que quand on parle de ce jambon-là, ce jambon, moi, je le mange avec des tranches qui sont assez épaisses. Le jambon en Espagne, on le fait en fines tranches et puis il fond dans la bouche. Là, le plaisir qu'on a avec le quinoa, c'est de l'avoir vraiment en tranches assez épaisses, et parce qu'il a une belle mâche aussi. Effectivement, il y a des idées reçues quand on dit que c'est une cuisine grasse. Moi, je ne le crois pas du tout. Et puis alors, encore moins aujourd'hui, où il y a une relève gastronomique avec des chefs dans le Pays basque français qui sont absolument extraordinaires, qui utilisent énormément le patrimoine dynamique en ce moment des produits basques français et qui en font une cuisine qui est excessivement délicate, fine, tout en restant très proche de cette culture et de cette histoire de basque française.
Oui, la révolution gastronomique ne s'est pas seulement faite au Pays basque espagnol, parce que jusqu'à présent...
C'est pas la même, c'est pas du tout la même.
Stéphane Jégo.
Non, mais quand vous voyez, par exemple, Anton à Bidart et Lemon, ou quand vous voyez Sébastien Gravé, quand vous voyez Anton, qui est vraiment un génie de la cuisine, et il a pris tout le terroir, tout le patrimoine du Pays basque, et on a fait une gastronomie, mais qui c'est du 3 étoiles Michelin. Et c'est ça, justement, avec des choses très simples. Il fait le fameux palto, là, le sandwich basque, mais c'est parce que, justement, c'est travailler avec générosité. Parce que c'est souvent ça qu'on allie, ce côté roboratif, ce côté gras, c'est cette générosité. Il faut pas confondre justement le plaisir de la table, le plaisir de la gourmandise, le plaisir de se retrouver avec quelque chose de gras. Non, pas du tout. Nous, on a eu justement ces préjugés-là à la Mijan, parce que voilà, c'est convivial, il y a du monde, ça bouge, t'as des plats de famille, t'as des plats plus gastronomiques, et d'un seul coup, il faut mettre des gens dans des cases, il faut mettre quelque chose dans une case pour pouvoir identifier. Non, ce n'est pas une cuisine lourde. Tu peux très bien avoir une belle côte de cochon de partage, c'est pas ça que tu vas pas la cuire dans du hindou. Voilà, tu vas la faire rôtir, ça aura une dose de graisse par rapport au porc que tu as employé, mais c'est tout. La convivialité, la générosité, le partage au Pays basque, ce n'est pas une cuisine grasse, c'est pas ça qui fait son identité. Au contraire, c'est ce qui fait, c'est se retrouver autour de la table et de cette diversité. Et on a vraiment des jeunes et des moins jeunes, là, qui font des cuisines admirables et des gens qui sont vraiment et de ancrer dans leur terroir, et de plus en plus, et on n'a rien à envier à cette gastronomie espagnole qui est très bonne, qui est géniale, on a des amis là-bas également, mais je pense qu'on se tire vraiment aussi notre épingle du jeu.
Alors il y a des images d'Épinal, il y a des préjugés, mais il y a aussi des petits conflits, des petits débats, par exemple sur la façon de cuisiner la pipérade. Alors je vous pose la question à vous, Pierre Otessa, parce que vous êtes un éleveur de porc, mais vous commercialisez autre chose que le porc, et notamment vous commercialisez la pipérade. La pipérade, il faut nous rappeler ce que c'est, de quoi est-elle constituée selon vous?
Oui, la pipérade, c'est un plat, tout ce qui est le plus simple, puisque les légumes qu'on a cueillis, les tomates, le piment vert d'Anglette, et le petit chamango qu'on a coupé en dés, qu'on a fait revenir à la poêle, avec de l'oignon, et tout ça avec de la tomate, c'est sûr que c'est un plat maison, et qui, je pense que toutes les semaines, on mange une petite biperade au Pays basque. Hein.
Donc, un piment doux et pas un poivron, Marilus Ribot, c'est
surtout
ça la question.
Surtout pas pitié, de grâce, absolument. C'est le piment d'Anglette ou piment des Landes, on dit aussi. Et quand on n'en a pas, parce qu'on n'en trouve pas partout, on peut prendre un piment corne de bœuf qu'on trouve un peu partout, mais surtout pas du poivron, pitié.
On la relève avec du piment d'Espelette ou pas?
Absolument, on la relève avec du piment d'Espelette, oui.
Parce que le piment d'Espelette, on l'utilise en toute la cuisine basque?
Partout. Elle est très très utilisée. Et au départ, elle est même utilisée avec le chocolat.
Oui, parce qu'effectivement, c'est aussi le pays du chocolat et le pays du maïs, le Pays basque. Allez, on va laisser passer la Madeleine. On vous retrouve tous les trois après la Madeleine aujourd'hui d'un guitariste.
This is Orson Welles behind the camera. A camera focused for this program on a fairly out of the way and little known corner of Europe. The land of the Basques.
The Land of the Basque, commandé à Orson Welles, dont on a entendu la voix par la BBC en 1955. Voilà un extrait choisi par John Lopère pour introduire votre Madeleine.
Mais oui, alors moi, il s'agit pas de la belle et légendaire voix de Orson Welles, mais de la belle et légendaire, peut-être, guitare de Thibaut Garcia. C'est lui que j'ai rencontré cette semaine. Il publie À sa guitare chez Erato, en duo avec le contre-ténor Philippe Jarouski, où les deux musiciens dialoguent entre guitare et chant. Ils passent du répertoire de la Renaissance à celui de la chanson française, comme Barbara. Ils seront en concert un peu partout en décembre en France, Courbevoie le 1er décembre, le 3 à Montpellier, le 7 à Bordeaux, etc., etc. Vous pouvez trouver toutes ces dates sur la page de France Culture. Et Thibaut Garcia, il sera aussi d'ailleurs à Toulouse, où il est né, dans une famille espagnole. Et il rend souvent hommage par son répertoire, son jeu et ses sonorités à la guitare classique espagnole. Et c'est là, de l'autre côté de la frontière, ou peut-être pas, que se niche sa Madeleine.
Ma Madeleine, c'est la tortilla de patatas de ma grand-mère. Alors la tortilla de patatas, c'est ce qu'on appelle ici une omelette aux patates, tout simplement, mais c'est une spécialité espagnole. La tortilla de patatas de ma grand-mère, c'est quelque chose de spécial parce que c'est peut-être ce que j'ai préféré manger pendant toute mon enfance. Et pour vous dire à quel point, c'est que pour mon anniversaire, je demandais une tortilla de patatas. Donc c'était pour moi, c'était un cadeau, c'était plus qu'un plat, c'était quelque chose qui me rendait vraiment heureux. À chaque fois qu'elle venait à la maison, elle en faisait une pour me faire plaisir. Et je lui ai même demandé de m'apprendre, du coup, de me léguer ce savoir, parce que, pour être honnête, en Espagne, j'en ai beaucoup mangé, et j'en ai jamais mangé qui était aussi bonne que celle-ci. Et elle m'a appris à faire cette tortilla, et alors je m'entraîne, mais j'arrive pas encore à la faire aussi bien qu'elle. Et il y a un détail technique là-dedans, c'est le retourné. Le retourné de tortilla, c'est hyper compliqué. Non mais c'est vrai, parce qu'en fait, soit vous prenez deux poêles chaudes, du coup vous retournez la première poêle dans la deuxième, soit vous avez qu'une seule poêle, et alors là, c'est l'épreuve, c'est que il faut retourner la tortilla dans une assiette, mais il y a un côté cuit et un côté pas cuit, et il faut faire glisser la tortilla de l'assiette dans la poêle. Dit comme ça, ça va, mais ceux qui essayent à la maison, en général, il y a la moitié qui tombe à côté. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je reviens dans la cuisine soit de ma grand-mère, soit de ma mère, où la tortilla a été servie. Il y a un crépitement, il y a quelque chose qui se passe dans ces patates qu'on fait sauter aussi. Donc il y a le geste en plus. Alors il y a le son, il y a le geste. Et puis en plus de ce son, de ce crépitement, parce qu'il y a le côté croustillant de la patate et de l'oignon qui va se caraméliser, il y a l'odeur. Et alors là, l'odeur, moi, ça me rappelle énormément de souvenirs. En fait, ce qui est rigolo, c'est que je revois la table avec la nappe, par exemple, sur laquelle elle venait le servir le dimanche quand elle venait manger à la maison. C'était une nappe toute bête, une nappe toile cirée avec des espèces de fleurs dessinées dessus, des vases et des fleurs dans des vases. Et c'était vraiment une ambiance de dimanche en famille où il y avait mes tantes et mes oncles, ma grand-mère qui venait. Mais comme je vous dis, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de dimanche en famille sans cette tortilla de patatas, ou un anniversaire sans tortilla de patatas. Mais vraiment, je me souviens d'un truc tout bête. Je m'étais fait mal. En fait, je suis tombé à vélo, je me suis ouvert le coude. Ma mère m'a mis des strips au coude, elle m'a soigné. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je me souviens très bien de ce jour-là. Elle m'a dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et j'ai dit, je veux que mamie vienne et qu'elle me fasse une tortilla.
Très jolie Madeleine. Merci beaucoup Matteo Caranta pour la Madeleine de Thibaut Garcia, qui me permet d'ailleurs de m'adresser à vous, Pierre Oteissa, parce que je crois que la cuisine dont parlait Stéphane Jégo tout à l'heure, cette cuisine basque, est une cuisine de partage, de convivialité, c'est aussi une cuisine de famille, avec la grand-mère, les longs repas. Je crois que vous avez des flashs, vous aussi, de goût, d'odeur, de cette grande marmite familiale cuisinée par votre amachi, la grand-mère.
Amachi, oui. C'est vrai qu'il y a des souvenirs qui restent et des souvenirs qu'on retrouve quand on cuisine, des odeurs qui reviennent et qui rappellent des bons souvenirs. Ouais.
Et puis vous terminez souvent les repas en musique, non? Vous chantez beaucoup après un bon repas bien arrosé?
C'est vrai qu'on aime ça. Ça arrive comme ça, ça vient. Ça démarre. Suivant le temps et suivant la compagnie, il y a toujours... L'étincelle qui démarre, oui.
Il y a une musique en particulier que vous nous avez soufflée, Pierre Oteissa. Vous vous en souvenez?
Luzaiden egin dute pasione berria. Abisatzera noa bertu. bertxotan egia. Gau bat ez gizon bat bidian eroria, alegia hilik antzegola jarria.
Vous avez reconnu Pierre Oteiza?
Oui, on aime.
De quoi s'agit-il?
C'est les trois cousines qui chantent. Et bien justement, c'est un jeune homme qui arrive à la maison et mais qui aimerait bien se mettre à table. Vous êtes tombé en plein dans le mille.
Stéphane Gégaud, on chante à la mi-jean?
Oui, bien sûr qu'on chante à la mi-jean.
Mais on chante pas nécessairement du basque, parce que vous disiez que vous êtes breton, vous, à l'origine. Vous avez repris cette plus vieille institution basque de Paris, qui est la mi-jean, en 2002.
Eh oui.
À l'époque, vous faisiez de la cuisine traditionnelle basque. Donc ça veut dire qu'il a fallu que vous vous appreniez à la faire.
Bah, disons que je suis tombé dans le Pays basque en 92, quand je suis rentré à la régalade avec M. Condeborne, qui lui béarnais. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de cette région. Vraiment, on est tombé amoureux de cette région et on l'a pu quitter. Et ça a été naturel de reprendre la mi-jean en 2002. Et ça a été vraiment un concours de circonstances qui s'est fait d'une façon tellement bête que presque le destin m'avait posé devant la porte de la mi-jean. Et c'est M. Condeborne qui est rentré un jour à la régalade. Il me dit, je pense que j'ai trouvé l'affaire pour toi. Et c'était la mi-jean. Et la petite anecdote, c'est parce que c'est vrai que Monsieur Paguigui, Payo Paguigui, qui était voilà ce côté très généreux, mais un peu dur et un peu austère, on va dire au premier abord. Quand je rentrais, j'arrivais à 7h, en plus on était au mois de mars, 6h, 7h à la mi-jean pour regarder un petit peu comment ça allait se passer, etc. Il avait une petite loupiote, il était en dessous, il faisait ses comptes et il n'y avait pas un mot, pas un bruit. Et il a fallu que je fasse intervenir des amis à moi, donc Pierre Etchemaïté à Laro, qui l'appelle. Là, Monsieur Paguigui, pour lui dire, il va reprendre l'institution, il va respecter les choses, il continuera dans le même chemin. Et là, d'un seul coup, le lendemain, je suis arrivé, les lumières étaient arrivées, le café était posé sur le zinc, et on a commencé justement à rentrer dans cette institution et rentrer. Et j'ai eu la chance de faire le dernier service avec Monsieur Paguigui, qui m'a intronisé dans ce monde et m'intronisé réellement dans tout ça. Et ça a été un moment d'émotion et de folie.
Et vous continuez, même si donc vous vous êtes affranchi de cette cuisine, disons traditionnelle basque, vous continuez de vous approvisionner auprès de certains producteurs basques.
Bien entendu, on a une multitude de producteurs au pays, dont bon, on a Eric Hospital qui est un ami. Bon, Pierre ne sait pas, mais de temps en temps, j'ai ses charcuteries sur la table parce que personnellement, j'en suis red dingue. Et voilà, on a des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz, on a une multitude d'amis, d'artistes quelque part, oui, du Pays Basque qui nous font les piments d'Espelette, voilà, également. Donc c'est vrai que la mi-jean, oui, est inévitablement ancré au Pays Basque. C'est, je répète, appuyé à l'institution basque de la place de Paris, et j'aime justement garder ces traditions. Le comptoir est encore, et les inscriptions sont en basque, on a toute cette tradition, voilà, de convialité, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la cuisine basque, c'est la générosité, c'est la convialité, c'est le partage. Et c'est justement ça qui est intéressant. Là, on a une clientèle internationale qui se retrouve dans un lieu, dans un bistrot presque provincial, dans le 7e. Mais c'est là qu'on voit justement cette magie qui opère, c'est qu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de langue quelque part. Et c'est là-dessus qu'on a joué, nous. Et moi, justement, quand je suis rentré là, l'identification basque, bon, c'était naturel, même en étant breton. Et c'est ça qui était intéressant, justement.
Alors, on a parlé d'un certain nombre de produits basques, on a parlé d'un certain nombre de plats également basques. On a oublié, je crois, un des produits phares de la cuisine basque, qui est un dessert, évidemment, c'est le gâteau basque. Alors, le gâteau basque, la maison Pariès en fait beaucoup, en particulier fait aussi des mouchous qui sont quand même très très bons. Et comme dans la pipérade, à savoir est-ce qu'on le fait avec du poivron ou est-ce qu'on le fait avec du piment, Marie-Luce Ribaud, je crois que le gâteau basque, on se demande si on met de la crème pâtissière ou de la confiture de cerise. Et ça n'est pas encore résolu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça se résoudra jamais.
Hein. Vous êtes plutôt quoi, vous, alors?
Moi, je suis plutôt crème pâtissière. Alors, je suis crème pâtissière. J'aime que le gâteau basque soit épais. Ce qui est formidable, alors, le gâteau basque, c'est ce croustillant d'une pâte sablée sur le dessus et le dessous. Cette crème pâtissière est très onctueuse. Qui donc quand il est un peu épais, on sent toutes ses saveurs. J'aime bien qu'il ait des petits grains de sel à l'intérieur, qu'on tombe dessus comme ça par surprise au détour d'une bouchée. C'est voilà, moi je suis très crème pâtissière, j'avoue. Cerise moyen. Et alors là, il y en a un qui est sorti. D'ailleurs, sa maison Paris le fait au chocolat. Et pour moi, je peux pas.
Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, Stéphane Jégot, dans les cuisiniers qui renouvellent cette cuisine basque. Et il fait encore du gâteau basque. Nous l'avons avec nous au téléphone. C'est Sébastien Gravé. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes. Merci beaucoup d'être
Salut
avec
Seb.
Nous.
Bonjour Sébastien.
Salut.
Ah bah tout le monde se connaît, je vois. Vous êtes cuisinier donc d'origine basque. Vous êtes chef du restaurant La Table à Bayonne et avec Louise Jacob du Potoka à Paris. Alors le Potoka, c'est un bistrot à fort accent basque. D'ailleurs, je crois que Potoka, c'est à la fois la mascotte du club de rugby de Bayonne dont vous êtes un grand fan, Sébastien Gravé, et une race de poney endémique du Pays basque. Mais bon, en ce moment, donc à Potoka, on trouve du paleron de bœuf confit aux herbes, risotto de céleri au vieux parmesan, soubise et crumble d'oignons doux, s'il vous plaît. On trouve un mariné de canard aux noisettes, magret séché, velouté glacé de haricots ou de cerès et glace noisette, ou bien un merlu au naturel, hollandaise au café, praliné, mousseline et panais confit, condiments agrumes, une assiette de fromage avec sa confiture de cerise noire, et donc un gâteau basque. Alors votre gâteau basque, il est fait de quoi, Sébastien Gravé?
Alors, déjà, première chose, et personne ne m'en voudra, je juste de vous demander de dire Potioka, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par mes compatriotes du Pays Basque, parce que les deux T en basque, ça fait le tieu.
Donc tac, voilà, donc tac, Potioka.
Voilà, Potioka, voilà.
Tu chipotes, Seb, tu chipotes.
Non, il a raison.
Voilà, non, mais notre gâteau basque, mais voilà, après, comme Marie-Louise disait... Pour mettre tout le monde d'accord, ça va être un peu compliqué. On a tous un peu notre manière, on se l'accapare un peu tous à notre façon. Après, l'important, c'est de respecter quand même, ce qu'on a révisé aussi tout à l'heure, le croustillant, le côté un petit peu parfum d'amande, le moelleux à l'intérieur. Alors moi, quand vous parliez tout à l'heure crème ou confiture, c'est vrai que quand j'ai démarré au tout début au fond de la fontaine, donc ça fait quasiment 15 ou 16 ans que j'ai toujours eu le gâteau basque à la carte dans mes restaurants parisiens. En fait, j'ai mis tout le monde d'accord, j'ai mélangé la crème pâtissière avec de la confiture de cerise noire. Comme ça, ça donnait un bon côté crémeux, le côté de la crème, et il y avait la petite acidité, la sucrosité de la confiture de cerise à l'intérieur.
Et vous la faites avec de l'amande amère, non, aussi?
Alors, je mets une toute petite pointe d'amande amère. Voilà, juste, moi, ça j'aime beaucoup. Il faut faire très attention avec l'amande amère, parce que si on en met trop, évidemment, ça prend le dessus surtout. Mais j'aime bien apporter ce petit coup, ce côté amande. Il ne faut pas oublier que voilà, dans la pâte à gâteau basque, il y a quand même ce côté poudre d'amande, ce côté sablé apporté par l'amande. Et j'aime bien rajouter une petite pointe de rhum, parce qu'il ne faut pas oublier que bah, il y a eu des grands marins, et Bayonne a été un grand port de commerce, et il y a quand même pas mal d'alcool qui est arrivé des Antilles il y a quelques centaines d'années.
Eh bien, avec tout ça, j'ai envie de dire, j'espère que je vais le dire avec un bon accent cette fois, Egisu Baskari, bon appétit, je crois, on dit comme ça pour le midi, non?
Ouais, c'est pas mal, c'est bien.
Ok, merci beaucoup à tous les quatre. Sébastien Gravé, Stéphane Jégot, Pierre Oteissa et Marie-Luce Ribaud de nous avoir introduits à la cuisine basque d'aujourd'hui. Je renvoie aussi les auditeurs à un livre qui vient de paraître, Pascal Arcé, Basque, une virée gastronomique entre mer et montagne, un livre édité par La Martinière. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et bien sûr sur l'application de Radio France avec l'équipe Rock Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, June Lopère à la réalisation et notre technicienne du jour, Audrey Guélil. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signe des Temps par Marc Weitzmann.